Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le président a déclaré que le centre économique frontalier était un symbole du progrès de l'Indonésie. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative discute des opportunités de coopération avec la diaspora en Allemagne. Selon le ministre de l'Environnement et des Forêts, les zones de conservation comprennent les forts de défense indonésiens. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le président Joko Widodo a souligné l'importance du développement des centres économiques dans les zones frontalières de l'Indonésie, en tant que représentation du progrès de l'Indonésie. Cela a été transmis par le président Jokowi après l'inauguration de 7 postes transfrontaliers intégrés indonésiens dans la région de Centre-Nord de Timor, à l'est de Nusa Tenggara, mercredi. Selon lui, le poste frontalier national montre non seulement le visage de l'Indonésie, représente le progrès de l'Indonésie, mais aussi donne naissance à de nouveaux points de croissance économique. Dans sa déclaration avant d'assister à l'inauguration du poste frontière national, Jokowi a souligné plusieurs zones potentielles qui fonctionnaient déjà bien, notamment à Montaigne, la frontière entre l'Indonésie et Timor-Leste. Le président a également souligné que le développement économique attendu et l'économie du peuple, et non celle de la classe supérieure. Il a souligné que ces nouveaux points économiques sont des opportunités pour améliorer le bien-être des communautés locales. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, a discuté des opportunités de coopération dans le développement du secteur touristique et de l'économie créative du pays sur la scène mondiale avec la diaspora et l'association des étudiants indonésiens à Berlin en Allemagne. Citant le rapport d'Antara mardi, un communiqué de presse du ministère du Tourisme et de l'Économie créative a déclaré que le secteur tourisme et de l'économie créative indonésien progresse de plus en plus, même après la pandémie. Le secteur indonésien du tourisme et de la création change le paradigme du développement du tourisme, passant d'un tourisme basé sur la qualité à un tourisme de qualité et durable. Sandiaga a déclaré que l'indice de développement des voyages et du tourisme se classe parmi les 22 meilleurs au monde, battant la Turquie, la Nouvelle-Zélande et la Belgique. Sandiaga espère que la diaspora et l'association des étudiants indonésiens de Berlin pourront devenir des agences touristiques indonésiennes pour aider à promouvoir le tourisme et de l'économie créative du pays. Les zones de conservation qui comprennent les forêts de conservation et d'autres zones sont très importantes à protéger parce qu'elles constituent les fortifications arrière de la défense de la République d'Indonésie. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya Bakar, au Festival de la conservation de la jeunesse 2024 au nord de Jakarta mardi. Elle a déclaré que son parti essayait de renforcer la protection des zones de conservation, y compris en attirant la jeune génération comme principale force motrice. Après avoir observé plusieurs pays visités ou rencontrés lors des réunions internationales, Siti Nurbaya a estimé que la participation du peuple indonésien, y compris la jeune génération, dans la préservation de l'environnement, était meilleure que les autres nations. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère indonésien des Affaires étrangères, exhorte toutes les parties afin de faire preuve de retenue face à la dernière situation très inquiétante qui se produit actuellement au Moyen-Orient. Cette déclaration intervient après qu'Israël a mené une attaque terrestre contre le Liban mardi et l'Iran a lancé des centaines de missiles sur Israël le même jour. Selon le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Rolyansa Sumirat à Jakarta mercredi, l'Indonésie a souligné l'importance pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de tenir une réunion spéciale pour discuter des derniers développements au Moyen-Orient et prendre des décisions qui pourraient réduire les tensions dans la région. Rolyansa a déclaré à Antara que l'Indonésie était très inquiète de la possibilité d'une guerre à plus grande échelle. Il a également déclaré que la sécurité des citoyens indonésiens au Liban était la principale priorité du gouvernement indonésien. Le processus de l'évacuation des citoyens indonésiens est aussi en cours. Les Émirats arabes unis ont exprimé mardi leur profonde inquiétude face à l'escalade du conflit après qu'Israël a lancé une opération terrestre mardi matin au sud Liban. Ceci est un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, cité par Anadolu. Les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur position ferme sur l'unité libanaise, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale, en soulignant le soutien indéfectible du pays au peuple libanais pendant cette période difficile. Le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a ordonné la livraison d'un programme d'aide d'urgence d'une valeur de 100 millions de dollars américains, équivalent à 1,5 billion de roupies au peuple libanais. Cette déclaration intervient après que l'armée israélienne a déclaré avoir lancé une attaque au sol limitée, localisée et ciblée, basée sur les renseignements précis contre le groupe libanais de Hezbollah dans des villages du sud du Liban, près de la frontière qui constitue une menace directe pour les communautés israéliennes dans le nord d'Israël. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une session d'urgence mercredi pour discuter des tensions croissantes entre Liban et Israël. La mission permanente de la Suisse, qui a assuré mercredi la présidence tournante du Conseil d'administration, a annoncé que la session aura lieu à 10 heures de New York. Cette session a débuté dans un format ouvert puis s'est poursuivie dans un format fermé pour des consultations entre les pays membres. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées après l'attaque de l'Iran contre Israël mardi soir. Israël a rapporté que l'Iran avait lancé environ 200 missiles en réponse à l'assassinat du leader politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israël a ciblé Nasrallah et d'autres commandants de Hezbollah lors d'une frappe aérienne dans la banlieue sud de Beyrouth, le 27 septembre. Hania a été tué dans l'attaque alors qu'il était en visite à Téhéran fin juillet. Cet ami, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « Après l'investiture des représentants du peuple ». Mardi 1er octobre 2024, 580 membres du Conseil représentatif du peuple de la République d'Indonésie, 152 membres du Conseil représentatif régional ou DPD et 732 membres de l'Assemblée consultative du peuple ou MPR composé de membres de DPR et DPD pour la période 2024-2029, ont été investis au Parlement de Jakarta. L'investiture des membres du Conseil représentatif du peuple régional ou DPRD a déjà eu lieu. Selon la Commission électorale générale ou KPU, il y a 13 525 sièges pour les membres du Conseil représentatif du peuple régional. Dans la régence, ville est 1770 sièges pour les membres du Conseil représentatif du peuple régional provincial. Des milliers de représentants du peuple travailleront avec le gouvernement pour élaborer des lois et diverses réglementations régionales pour le progrès de la nation. Lorsque les gens font leur choix dans l'isoloir de vote, ils croient que les candidats qu'ils choisiront se battront pour les aspirations du peuple. La même chose que l'espoir pour le gouvernement, la performance des représentants du peuple est attendue pour pouvoir répondre aux grands problèmes auxquels est aujourd'hui confrontée la nation. L'une des situations préoccupantes est l'augmentation du taux de chômage. Le ministère du Travail a noté pendant le mois de janvier jusqu'au 26 septembre 2024, près de 53 000 personnes ont été licenciées. Ce chiffre s'ajoute au chiffre du chômage existant. la situation mondiale a plus ou moins d'influence sur la situation nationale de l'emploi. Le ralentissement économique mondial, les dommages environnementaux, les tensions non encore résolues au Moyen-Orient et en Ukraine ont eu un impact sur l'économie nationale. Des ajustements doivent être apportés à la mise en œuvre des politiques gouvernementales pour faire face à cette situation. La fonction des représentants du peuple est de déterminer les lois et le budget, ainsi que d'exercer le contrôle. On attend d'eux qu'ils soient plus attentifs aux difficultés rencontrées par la population et qu'ils supervisent le fonctionnement du gouvernement afin que les politiques exécutives ne nuisent pas à la population. On espère que les lois et réglementations élaborées par les membres du Conseil nouvellement nommé permettront au peuple de sortir des difficultés, apportant des progrès et non des rêves. C'est pourquoi les représentants du peuple doivent continuer à écouter les plaintes du peuple. Être un représentant ouvert du peuple signifie être prêt à accepter les commentaires du peuple. Les gens doivent se sentir plus proches de leurs représentants et croire que ces représentants travaillent pour assurer le bien-être des personnes qu'ils représentent. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui va commencer avec l'événement du 2 octobre 1983, création de la Journée mondiale des animaux de ferme. Chaque année, le 2 octobre, on célèbre la Journée mondiale des animaux de ferme. L'histoire de cette commémoration a commencé en 1983, lorsque le mouvement pour les droits des animaux d'élevage, Farm, a lancé une campagne internationale pour mettre en avant les droits des animaux de ferme. Chaque année, de nombreux animaux d'élevage sont victimes de cruauté, comme être enfermés dans des cages surpeuplées ou être anesthésiés. En célébrant la Journée mondiale des animaux d'élevage, les gens du monde entier se voient rappeler qu'ils doivent s'engager à mieux traiter les animaux d'élevage, affirmant que les animaux ont également le droit de vivre décemment et sans souffrance. Passons maintenant à l'événement du 2 octobre 2007, l'ONU a déclaré la Journée internationale de la non-violence. La première Journée internationale de la non-violence a été instituée en 2007 par les Nations Unies. Cette journée a été instaurée pour perpétuer l'héritage du militant indien Mohandas Karamchand Gandhi, également connu sous le nom de Mahatma Gandhi. Gandhi était un fervent défenseur de toutes les formes de violence. La Journée internationale de la non-violence rend hommage à la manière dont le travail et l'héritage de Gandhi ont influencé les manifestations non-violentes mondiales. La date du 2 octobre a été choisie car elle coïncidait avec la naissance de Mahatma Gandhi le 2 octobre 1869. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 2 octobre, la Journée nationale du batik en Indonésie. Le batik indonésien a été enregistré pour obtenir le statut de patrimoine culturel immatériel PCI auprès de l'UNESCO à Jakarta le 4 septembre 2008. Le 9 janvier 2009, la candidature du batik au titre de chef d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité, l'UNESCO, a été officiellement acceptée. Le batik a ensuite été confirmé lors de la session du comité intergouvernemental sur le patrimoine culturel immatériel organisée par l'UNESCO à Abu Dhabi le 2 octobre 2009. Suite à cela, le gouvernement indonésien a publié le décret présidentiel numéro 33 de 2009 pour instituer la journée nationale de batik le 2 octobre. L'objectif est de sensibiliser le public à la protection et au développement du batik indonésien. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Tunggu aku akan datang menjemputmu nanti di bulan kan ku lewati kegusan bintang melintasi ribuan tahun cahaya ku pandang langit gelap saat gelap
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie ayant pour le titre « Le gouvernement soutient l'écosystème indonésien de l'IA et des semi-conducteurs à travers l'éducation de classe mondiale ». Le gouvernement indonésien soutient l'écosystème d'intelligence artificielle, IA, et des semi-conducteurs par le biais d'un enseignement spécialisé, de la reconversion et du perfectionnement, ainsi que d'un enseignement de classe mondiale. Parmi ces mesures, on peut citer la présence de l'Université Tsinghua dans la zone économique spéciale Kura-Kura de Bali. C'est ce qu'a déclaré le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlang Hartarto, lors de l'événement de partage des connaissances et des réseautages façonner l'économie de futur, IA et semi-conducteurs, au campus Unity in Diversity, UID, dans la zone économique spéciale de Kura-Kura à Bali, dimanche 29 septembre. Le ministre Erlangga a déclaré que le gouvernement indonésien prévoyait que l'IA, les semi-conducteurs, seraient des éléments essentiels de la stratégie actuelle et future de l'économie numérique de l'Indonésie. Selon Erlangga, le campus d'Unity in Diversity de Bali est devenu une plateforme pour diverses collaborations en matière de leadership et de programmes de formation continue entre Unity in Diversity et Tsinghua Southeast Asia ou TSEA. Erlangga a également indiqué que dans la zone économique spéciale Kura-Kura SEZ de Bali, un campus économique pourrait être construit qui pourrait devenir le cœur de la vie et du cerveau intellectuel de la région. Lors du forum, Erlangga a souligné que la transformation technologique est la clé pour libérer le potentiel de croissance économique de l'Indonésie en accélérant trois moteurs économiques, à savoir en revitalisant les moteurs économiques conventionnels, en stimulant de nouveaux moteurs économiques et en renforçant l'économie Pancasila. Erlangga a réalisé cet objectif en lançant la feuille de route Making of Indonesia 4.0 et en se transformant en une force majeure de la 4e révolution industrielle grâce à la transformation technologique lors de la présidence de la CEN 2023. En outre, Erlangga a également lancé l'accord cadre sur l'économie numérique des EFA dans le but d'améliorer l'économie de la région de l'ASEAN. Le gouvernement indonésien a également formé un groupe de travail pour accélérer le développement de l'écosystème des semi-conducteurs dans le pays. Dans un avenir proche, l'Indonésie va étendre ses capacités locales d'assemblage, de tests et de conditionnement ATP et le développement de talents hautement qualifiés. À la fin de sa présentation, Erlangga a déclaré que chaque développement de l'IA et des semi-conducteurs nécessite des dizaines de personnes. Dans ce secteur, il y aura donc davantage d'emplois avec des compétences différentes. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu, apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Oh, lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukmu? Bilakah
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, l'île Lombok, comme l'île Bali, est célèbre pour ses belles plages et ses petites îles. L'une de ses belles plages naturelles est la plage Serenting. Cette plage, non loin de la colline Mandalika et de son circuit MotoGP, offre un panorama époustouflant à découvrir. Située non loin de la plage la plus populaire, Seger, Serenting se trouve à environ 51 km de Mataram. Nous pouvons rejoindre la plage en environ 1 à 1,5 heures de route depuis la ville. Peu de gens connaissent son existence. Ce quartier n'est donc pas trop fréquenté. Les enfants peuvent jouer librement dans cet endroit. L'eau de mer bleue et les grosses vagues rendent la plage Serenting idéale pour le surf ou les sorties en famille. Chers auditeurs, si vous ne souhaitez pas faire d'activité époustouflante autour de la plage Serenting, essayez de marcher pieds nus sur le littoral. Profitez de la texture du sable blanc tout en admirant la magnifique vue sur la mer. La plage Serenting, qui fait partie de la zone économique spéciale de Mandalika, permet d'admirer la beauté du sable blanc et brillant du côté sud du virage 10 du circuit MotoGP de Mandalika. Soit plus ou moins dans un rayon de 50 mètres du circuit Mandalika. Non seulement la plage de sable blanc est propre du hameau de Bunut, le village de Kuta Mandalika possède une baie allongée et est différente des plages de la région de Mandalika. Ne vous inquiétez pas si vous oubliez d'apporter des provisions ou si vous souhaitez aller aux toilettes, car cette plage propose plusieurs installations comme des toilettes et des salles de prière. Il y a aussi des résidents qui ouvrent des magasins, des petits restaurants et des familles d'accueil pour accueillir les touristes lors de leur visite à Serenting. Outre les plages et les collines, on peut voir du tengkong qui signifie champignon en langue sasak. L'icône de la plage Serenting située au milieu de la mer est en réalité un rocher qui ressemble à un champignon. Son emplacement à proximité de la plage Seger rend Serenting très fréquenté par les visiteurs lors du festival Baunyale, une tradition de capture de vers marins. La plage de Serenting est flanquée de deux collines qui offrent un charmant panorama sur Kota Mandalika, à savoir Colline Seger et Colline Merese. Il y a aussi Gili Batu ou Inil Batu en plein milieu de la baie de la plage de Serenting. De nombreux touristes immortalisent la plage de Serenting comme arrière-plan pour des photos prises depuis le sommet de Colline Seger. Pour vous rendre à la plage de Serenting, vous pouvez emprunter la route à côté du circuit de Mandalika ou via la route d'accès depuis le nouveau hôtel Kota Mandalika. Les visiteurs ne doivent payer que des frais de stationnement de 5 000 rupiah pour les motos et de 10 000 rupiah pour les voitures. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu.
Voice of Indonesia.
bisa kasihnya bahagia, dan kau hadir taklukkan hatiku. Ku hindari, ku semakin terjatuh.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia. La Voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec Maudrey. Le sujet d'aujourd'hui est Wow. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Wow. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et les habitants du village culturel de Pampang, dans la ville de Samarinda, dans le Kalimantan oriental. Chris a exprimé son admiration lorsqu'il a vu les femmes Dayak aux longues oreilles. Bonne écoute.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui intitulé « Wow ». Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Wow, wow, wow. Banyak sekali, banyak sekali, très beaucoup. Anting, anting, boucle d'oreille. Ibu, ibu, dame. Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow. Elle a beaucoup de boucles d'oreilles, cette dame. Telinga, telinga, oreille. Panjang, panjang, long. Konon, konon, soi-disant. Masyarakat, masyarakat, habitant. Suku Dayak, suku Dayak, tribu, Dayak. Wanita, wanita, femme. Cantik, cantik, belle. Anak muda, jeune femme. Tradisi, tradisi, tradition. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow, banyak sekali anting ibu itu. » En français, « Wow, elle a beaucoup de boucles d'oreilles, cette dame. » Dans cet énoncé, il y a l'interjection « Wow, wow. » Wa, qui exprime une expression d'admiration. Le mot wow, wow, wa, a été utilisé par Chris pour exprimer son admiration pour les nombreuses boucles d'oreilles portées par une femme Dayak qu'il a rencontrée. Chers amis, allez écouter un autre exemple de l'interjection wow. Wow, wow, pour exprimer son admiration. Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. Wow, megah sekali Candi Borobudur itu. En français, wow, quel magnifique temple de Borobudur. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. Wow, besar sekali Sungai Mahakam ini. En français, wow, la rivière Mahakam est vraiment grande. Chers amis, la tribu Dayak de l'île de Kalimantan a une tradition connue sous le nom de Telingan Aru. Telingan Aru. La tradition consiste à allonger les oreilles en utilisant des boucles d'oreilles comme poids. Dans les croyances Dayak, la beauté d'une femme n'est pas jugée par son visage, mais par la longueur de ses oreilles. Chers, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Wow, banyak sekali anting ibu itu, sampai telinganya menjadi panjang.
Konon, dalam masyarakat suku Dayak, wanita dengan telinga panjang itu cantik.
Apakah anak muda di sini masih melakukan tradisi itu?
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Pikir kau tak sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah, yakinkan hatimu. Kau yang
sesempurna yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah yakinkan hatimu. Oh, sekali cinta ku mencinta, bisa dari itu yang ku punya. Sekali cinta ku mendunia, takkan kecewakan kau yang ku puja. Sekali cinta ku mencinta, takkan ku ganti dengan dusta. Sekali cinta ku mendunia, takkan kecewakan kau yang ku puja. Yang ku puja.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Baby, babe, I want you to know.
And I love you
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.